nzamba
nzambira samirana
Nous sommes jeudi 19 août 2021, c'est l'heure du journal dont voici d'abord les titres. Un inconnu s'est emparé d'un fusil de type Kalachnikov au bureau de la PAF à Gitega. Le voleur court toujours. Le carburant sera disponible à compter de ce jeudi. C'est l'assurance donnée par le ministère en charge de l'énergie au moment où s'observe depuis quelques jours une pénurie de ce produit dans le pays. Un réfugié du camp de Nduta en Tanzanie est mort alors qu'il était sous assistance respiratoire. Le décès ajouté à la psychose des réfugiés qui redoutent la propagation du Covid-19 au sein du camp. Voilà pour les titres. Josephine Johnson, nous demande le micro. Bonjour à toutes, bonjour à tous.
Suivez les émissions de la radio Inzamba en direct sur le www.inzamba.org.
Un fusil a été volé le matin de ce jeudi par un inconnu. L'arme de type Kalachnikov a été dérobée dans un guichet de la police de l'air, des frontières et des étrangers au chef-lieu de la province de Gitega. Le fusil en question appartenait à un officier de police. Le point avec Blaise Nijimbe.
Les informations d'une deux fois en province du chef-lieu de la province de Gitega nous disent que c'était à 10h du matin quand une personne qui n'a pas été identifiée s'est introduite dans un bureau d'un officier de la police de l'air, des frontières et des étrangers. Nos sources disent que cette personne s'est faite passer pour quelqu'un qui a besoin de documents de voyage dans son bureau. Il s'est adressé à cet officier et après quelques minutes, le policier a fait un saut dans un bureau juste à côté, laissant son bureau ouvert avec la personne en question à l'intérieur. Cette personne en a profité pour s'emparer du pistolet laissé dans son bureau et s'est volatilisé dans la nature. À son retour, l'officier de police a demandé à ses collègues s'ils auraient vu quelqu'un sortir de son bureau. Ils ont répondu qu'ils ont aperçu quelqu'un allant en courant avec une voiture de marque Probox, mais qu'ils n'ont pas pu identifier le numéro d'immatriculation de son véhicule. Les mêmes sources nous disent que le policier qui a perdu son fusil serait un ancien militaire de la force armée burundaise FAB, et que ce qui s'est passé serait un plat de vol préparé à l'avance par ses collègues policiers issus des anciens mouvements rebelles. Les mêmes informations nous apprennent que la cohabitation entre ce policier et ses collègues n'était pas au beau fixe et que c'est possible que ces policiers veulent que l'officier en question soit puni et soit emprisonné pour vol d'armes. Une autre opinion avance un montage visant la persécution des gens non favorables à l'idéologie du parti au pouvoir au sein de FDD en essayant de pointer du doigt les policiers et ses FAB.
La pénurie du carburant dans le pays est une réalité. C'est le ministère en charge de l'énergie qui l'avoue. Mais en même temps, le ministère assure, à partir de ce jeudi, le carburant sera disponible à la pompe dans différentes stations-service. C'est ce qu'a déclaré le porte-parole de ce ministère au cours d'un point de presse aujourd'hui. Léonidas Sndaigaya indique que cette pénurie résulte d'une mauvaise distribution de ce produit. On l'écoute.
L'apparente pénurie qui s'observe sur le territoire résulte de quelques défaillances dans le circuit d'approvisionnement de ces produits. Une stratégie a été trouvée hier de commun accord avec les importateurs et cette stratégie prendra effet à partir de ce jeudi 19 août 2021.
Les communes et provinces du Burundi vont bientôt être restructurées et leur nombre diminuer. Annonce faite par le ministre de l'Intérieur et du Développement communautaire, le général Gervais Ndirakobucha. Selon lui, c'est dans la logique de vouloir atteindre le développement durable.
Je voudrais vous annoncer qu'au niveau de notre ministère, nous voulons faire la restructuration administrative des communes et provinces et les délimitations y relatives. Nous devrons examiner si nous avons encore besoin d'une dizaine de provinces et d'une centaine de communes. Nous sommes pieds d'œuvre pour voir si le développement communautaire est réellement possible avec un nombre pléthorique des entités administratives pour pouvoir bien collecter les taxes. Il y a même des communes qui n'ont pas de marché local. Nous devons réorganiser pour que la province soit une province au vrai sens du terme et la commune même nommée.
L'idée n'est pas du tout mauvaise, mais il faut étudier sa mise en application. Avis de l'ancien vice-président de la République du Burundi, Frédéric Rwamvuginyumvira, et président de la coalition de l'opposition Sefor Arusha. Pour lui, même si le nombre des provinces sera diminué, les communes, elles, devront plutôt être toujours nombreuses parce qu'elles constituent la base de la vie d'une collectivité ou d'une communauté.
Réduire le nombre de provinces, réduire le nombre de communes, et ça vient répondre à quelles préoccupations exprimées par le peuple burundais. Voilà ce qu'il faut chercher. Est-ce que le peuple burundais a vu dans cette multiplicité des communes, des provinces, une difficulté? Alors, qui a vu ça? Alors, celui qui a vu, est-ce qu'il a cherché à intéresser d'autres pour qu'on comprenne de la même manière? On ne sait pas. Le Burundi, la Belgique sont des pays qui ont presque la même superficie, à quelques différences près. Mais l'administration est autrement organisée. Au Burundi, 129 communes, 18 provinces. Je vois la Belgique qui a 10 provinces avec 585 communes parce que la commune c'est une entité autonome et suffisante qui doit répondre à tout souci du citoyen de la commune. Donc ce qui fait que même si l'administration centrale n'était pas là, la Belgique continue à fonctionner sur le plan administratif parce que tout est centré au niveau des communes. C'est ça la véritable décentralisation. Par rapport au Burundi, je crois que le grand souci est de voir comment le peuple burundais puisse accéder à ces deux clés du développement que sont l'eau et l'électricité. Il faut plutôt penser à déplacer les populations de ces collines où ils sont dispersés pour les mettre dans des villes secondaires, dans des villages, pour qu'ils puissent accéder à l'eau et à l'électricité. Et par là, ils vont créer des services et l'agriculture va être quelque chose qui puisse aider les populations à vivre réellement parce qu'une telle culture pourra être exploitée sur une grande étendue parce qu'il y a un besoin quelque part. Mais sinon, je crois que la question profonde, c'est plutôt comment répondre à ce que la population puisse manger à sa satiété, manger à sa faim. Sinon, la question qui se pose, c'est celle-là plutôt. Je ne pensais pas que la réduction des communes viendrait peut-être répondre à ça, mais le déplacement des populations, oui, ça viendrait répondre à cette question d'organiser la population à ce qu'elle puisse avoir de quoi manger à leur faim, comme ils le souhaitent.
L'ancien vice-président voit dans cette restructuration une occasion de pouvoir décentraliser davantage l'administration à travers ces nouvelles entités administratives et d'associer les administrés pour qu'ils puissent donner leurs avis.
Administrativement, il faut viser la véritable décentralisation. Si on a par exemple 5 provinces, je crois que l'intérêt qu'il y a, c'est qu'on aurait un parlement local et un gouvernement local. Le parlement local va traiter des questions des lois locales et lorsqu'il va s'agir des lois nationales, effectivement c'est là où ces parlements régionaux ou provinciaux vont se rencontrer au niveau national pour étudier une loi nationale. Et dans ces conditions, ça peut se comprendre. Et l'exécutif aussi, il faut qu'il y ait un gouvernement local qui doit aussi traiter des questions au niveau de la région. Et ils ne se rencontreront au niveau du sommet que pour décider une question d'intérêt national. Ça veut dire une question administrative, mais qui doit être couplée aussi aux questions du développement. Mais l'argument du ministre de l'Intérieur ne suffit pas. Il ne faut pas qu'il dise, voilà, il faut qu'un administrateur, il faut qu'un gouverneur ait une grande étendue à gouverner. Ce n'est pas ça le problème. Et qu'il y ait beaucoup de taxes, c'est pas ça le problème. Parce qu'il y a une question de corruption qu'il faut d'abord éradiquer. Et aujourd'hui, les taxes se lèvent, ça c'est clair. Mais où va cet argent? Pourquoi on ne se développe pas? C'est que l'argent est utilisé par des particuliers, alors que c'est de l'argent des contribuables. Je crois que c'est cela qu'il faut plutôt chercher à soigner davantage. Et évidemment, le troisième élément, c'est la conception, la vision à long terme. Il ne faut pas qu'aujourd'hui, il y a quelques années, une année ou deux, on a eu Rumonge. Maintenant, Rumonge va disparaître pour faire partie de Bujumbura. Mais pourquoi ce tâtonnement, toujours tâtonner, toujours tâtonner? Qu'il prenne du temps, qu'il fasse des études, études, qu'il fasse participer la population elle-même et montrer les intérêts qui se trouvent dans ce projet ou dans celui-là pour qu'il y ait participation de tout le monde. Mais si c'est pour des intérêts, pour des petits calculs politiques du parti CNDD-FDD, mon Dieu, c'est encore une fois tripoter sur le pays. Ça ne pourra pas faire avancer le pays sur le plan de développement ni sur le plan organisationnel.
On observe une courte pause et on se retrouve pour la suite de l'actualité burundaise.
Inzamba.
La suite de ce journal avec cette personne sous assistance respiratoire décédée hier mercredi dans le camp des réfugiés de Nduta en Tanzanie. La victime faisait partie de 7 patients en traitement dans un hôpital à l'intérieur du camp et qui était soupçonné de souffrir du Covid-19. Cette situation vient aggraver la peur de la propagation du virus. Les réfugiés demandent l'instauration d'une règle contraignant les gens au respect des mesures de prévention contre la pandémie. Les détails avec Benny Axelakan.
Selon les sources provenant du camp des réfugiés d'Onduta, la victime qui est décédée ce mercredi présentait des signes de la Covid-19. Il était parmi 7 patients, dont des réfugiés, sous assistance respiratoire, dans un hôpital à l'intérieur du camp. Cette situation arrive tandis que les réfugiés du camp d'Onduta s'inquiétaient du manque des mesures barrières contre la Covid-19. Ces réfugiés crie aussi le manque de communication de la part des autorités sanitaires. Les cas de contamination risquent de prendre une allure inquiétante au moment où les lieux de rencontres massives restent fréquentés sans inquiétude. À chaque occasion, les stades, les églises et les marchés sont remplis des gens, indique notre source. Les réfugiés du camp d'Onduta réclament des communications régulières sur la Covid-19 et une rigueur sur l'application des mesures de prévention de cette pandémie. La radio Inzamba, Agathe Kakawe, n'a pu joindre par téléphone ni le responsable de l'hôpital de Médecins Sans Frontières, Nduta, ni le responsable du camp pour plus d'éclaircissements. Depuis le début de la pandémie, aucun cas de Covid-19 n'avait jusque-là été rapporté dans ce camp qui abrite plus de 60 000 réfugiés, selon des sources sur place. Toutefois, cet rapatrié burundais en provenance d'Nduta avait été testé positif l'année dernière à leur arrivée au Burundi.
30 personnes parmi les 450 réfugiés rapatriés de la RDC ce mercredi ont été testés positifs au Covid-19. Le ministère de la Santé affirme que ce nombre est alarmant par rapport aux cas testés auparavant. Le ministère indique qu'il va contacter les services chargés du rapatriement pour un dépistage obligatoire avant d'envoyer ces rapatriés comme ça se fait ailleurs. Les autorités doivent être conséquentes avec les décisions qu'elles prennent. C'est ainsi que l'ancien candidat indépendant à la présidentielle, Francis Lohiro, fustige la position du gouvernement par rapport à la vaccination contre le Covid-19. Selon lui, les dirigeants devraient au contraire donner le bon exemple en se faisant vacciner en premier pour rassurer la population et faire respecter les mesures barrières. Je vous prie de suivre Francis Lohiro.
En ce qui concerne les gestes barrières, c'est comme si au Burundi on n'en fait plus. C'est comme si tout le monde fait ce qu'il veut. C'est comme s'il y a beaucoup de gens qui ne croient pas que le Covid tue. Et franchement, certaines déclarations sont faites juste pour plaire aux gens, pour montrer qu'on est dans le concert des nations, qu'on fait comme tout le monde, mais en réalité, ces mesures ne sont pas appliquées. C'est comme si on les applique quelque part. Dans quelques endroits, il faut entrer parce qu'il faut éviter qu'ils soient contaminés. Mais juste ça. Mais la population n'est pas presque concernée parce que partout où on va, on trouve que les mesures barrières ne sont pas vraiment appliquées. Et je déplore aussi le discours public de l'État qui ose dire que celui qui, par exemple, qui prendra le vaccin, qu'il accepte l'entrée du vaccin au Burundi, mais que celui qui le prendra à ses risques et périls. Et c'est dommage. Mon clin d'œil est que, par contre, le gouvernement se sente concerné. Au premier niveau, la population ne peut pas faire ce que le gouvernement ne peut pas accepter. La population burundaise a plus de 80% paysanne. C'est une population qui croit que ce que l'État a dit, c'est ça qui est. Il faudrait donc qu'on sache que le discours public doit aider la population à aller de l'avant. Je n'oblige pas notre pays ou d'autres à accepter un tel vaccin ou un tel autre, mais je crois que le discours doit être correct. Si vous ne voulez pas le vaccin, il faut dire que vous ne le voulez pas. Et si vous l'acceptez, il faut dire à la population pourquoi vous l'acceptez et pourquoi il doit être pris par la population. Je crois qu'il faut être conséquent parce qu'on est en train de faire. Ces derniers temps, avec l'ouverture des frontières, avec la rentrée de beaucoup de Burundais qui sont à l'étranger, avec ces mesures barrières qui ne sont pas appliquées, on est en train de constater que le Covid est présent de plus en plus dans nos milieux de vie. J'avais aimé qu'au début de ce pouvoir, le président de la République avait changé, avait dit que même dans son slogan, qu'il ne pouvait pas attraper la maladie, qu'il ne pouvait pas la contaminer les autres, qu'il devait se protéger. Alors, avec ça, il faut qu'il aille au bout. S'il pense qu'on peut juste se protéger jusque-là, il faut qu'il accepte que nous tous on le fasse, que le vaccin ne vienne pas. Mais s'il accepte que le vaccin vienne, il faut qu'il montre le modèle. Il dit, j'ai accepté que le vaccin vienne. Et si je l'acceptais pour un Burundais ou deux, je commence par moi-même.
La date du 19 août de chaque année est la journée mondiale dédiée à l'aide humanitaire. Cette journée arrive au moment où les réfugiés burundais éparpillés dans les pays de la sous-région peuvent passer des mois sans aide. Pour certains, leur assistance a été diminuée. Pour d'autres, elle a été purement et simplement annulée. Les défenseurs des droits des réfugiés demandent au ACR de continuer à soutenir les réfugiés burundais. Le point avec Delicia Kamikazi.
La journée mondiale dédiée à l'aide humanitaire arrive au moment où les réfugiés burundais qui sont dans les pays de la sous-région et qui nécessitent des aides sont estimés cette année 2021 à 315 000. Jusqu'au mois de février de l'année en cours, les besoins en numéraire nécessaires pour leur venir en aide se comptaient à environ 222 millions de dollars américains. Selon le HCR, 33% de l'argent nécessaire sont déjà collectés. Actuellement, les réfugiés burundais sont dans une situation d'ultime nécessité de l'aide car, dans certains pays, ils peuvent passer des mois sans assistance. Léopold Chalangabo, vice-président de la coalition burundaise des défenseurs des droits de l'homme des personnes vivant dans des camps de réfugiés, relate les conditions dans lesquelles vivent les réfugiés burundais et demande au HCR de leur venir en aide. Écoutez-le.
Cette journée internationale de l'aide humanitaire arrive pendant que les réfugiés burundais font face aux problèmes liés à l'assistance alimentaire. Parce que les réfugiés burundais sont parmi les moins financés au monde, selon le rapport DHCR. C'est pourquoi il y a des conséquences sur la vie des réfugiés burundais par la forme de réduction de ratios alimentaires, des pénuries des médicaments, etc. Nous demandons aux pays partenaires, au HCR, de continuer à assister les réfugiés burundais avant que la paix règne dans le pays. Nous demandons aussi aux pays qui ont accueilli les réfugiés burundais et le HCR de continuer à plaider pour les réfugiés burundais afin qu'ils puissent continuer à survivre.
Vous saurez que cette année, la Journée mondiale de l'aide humanitaire est dédiée à tous les bienfaiteurs qui œuvrent pour l'humanité entière.
Parfait, Hakizimana a été sélectionné pour participer aux Jeux paralympiques qui débuteront le 24 août à Tokyo. Ces Jeux opposent des athlètes vivant avec handicap. Parfait, Hakizimana est un Burundais réfugié au Rwanda vivant au camp de Mahama. Son objectif est de gagner une médaille. Qui est Parfait, Hakizimana? Son parcours avec Alice Akimana.
Parfait Hakizimana, âgé de 32 ans, est né à Musaga, à mairie de Bujumbura. Il venait de terminer la première licence à l'Université Sagesse d'Afrique dans la faculté d'économie quand il a pris fuite pour se réfugier au Rwanda, au camp de Mahama, où il s'est installé depuis 2015. Dans son camp, Parfait et d'autres sportifs n'ont pas abandonné la pratique du sport. Le sport a été d'ailleurs un outil important pour l'encadrement de la jeunesse dans son camp de Mahama, précise-t-il. Parfait Hakizimana a d'ailleurs créé un club appelé Taekwondo Mahama Academy pour aider les jeunes qui aiment ce sport. C'est dans ce club où il s'entraînait lui-même. Suite aux problèmes liés à leur exil, ces sportifs ont eu un manque criant de matériel. Parfait Hakizimana a profité des compétitions organisées au Rwanda pour montrer son talent. Il a gagné pas mal de médailles, ce qui lui a permis d'être sélectionné parmi les athlètes et réfugiés qui seront présents à Tokyo. Parfait Hakizimana reconnaît que c'est grâce à Moshambokazi Zura, son coach, qu'il est parvenu à se qualifier pour ces Jeux. Parfait, son coach partait pour Tokyo avec un objectif de gagner une médaille.
C'est la fin de cette édition. Merci à l'équipe de la rédaction de la radio Indamba, Agathe Kakawe, pour la production de ce journal. Un grand merci à vous, chers auditrices et auditeurs, pour votre fidélité. Au revoir.